Chapitre 18. Dans les angles de la chambre, des ombres mouvantes s'assemblaient puis se disloquaient, avançaient puis reculaient pour se fondre dans l'obscurité. Allongée dans son lit, parfaitement réveillée, Irène écoutait sa respiration saccadée et le battement du sang dans ses oreilles. La peur était comme un poids qui l'écrasait sur le matelas. Quelque chose l'avait réveillée. Un renard dans l'enclos paroissial voisin? Un ivrogne qui parlait tout seul dans l'allée? Ou alors... Non, là, ce bruit. Était-ce un grincement dans l'escalier? Trop terrifiée pour allumer sa lampe de chevet, Irène retint sa respiration. Quelques secondes s'écoulèrent. Elle se demanda si c'était son imagination qui lui jouait des tours. Très lentement, elle expira et se pencha sur le côté. Là, encore une fois, une espèce de frottement. Elle en était sûre à présent. Et elle était également sûre que cela provenait de la maison voisine et pas de chez elle, Dieu merci. Au fil des années, elle s'était habituée à entendre Angela monter et descendre l'escalier à toute heure du jour ou de la nuit. Il faut dire que les murs de ces petites maisons mitoyennes étaient fins et très mal isolés. Était-ce l'écho des pas de son amie qu'elle entendait? Comme un effet secondaire du deuil? Après le décès de William, elle avait eu pendant quelque temps des visions de lui remontant l'allée le soir en sifflotant ou se tenant devant la fenêtre le matin, de dos, comme s'il s'apprêtait à se retourner pour lui dire « Un petit thé, Rennie ». En périphérie de son champ de vision, quelque chose bougea, et Irène agrippa si fermement la couverture que cela lui fit mal aux doigts. À quoi ressemblerait Angela si elle devait apparaître devant elle? Lui parlerait-elle du dernier livre qu'elle avait lu, assise, jambes croisées comme à son habitude, un genou tressautant en permanence, ses doigts maigres toujours en mouvement, que ce soit pour rouler une cigarette ou triturer un fil de son chemisier en lin? Ou bien serait-elle différente, toute tordue, le cou brisé, son haleine jadis légèrement avinée, désormais putride? À présent, le doute n'était plus permis. C'était bien des pas qu'Irène entendait. Et ses pas feutrés n'avaient rien à voir avec ceux, toujours traînants, d'Angela. Il y avait quelqu'un qui marchait sur le palier, de l'autre côté du mur de sa chambre. Quelqu'un qui n'était pas un fantôme, un intrus. Plus que tout, Irène avait une peur bleue des intrus. Elle redoutait le moment où la personne qui serait entrée chez elle par effraction se rendrait compte que la maison n'était pas vide, qu'il y avait un témoin gênant à faire taire. Elle redoutait le moment où, seule dans son lit, elle comprendrait à qui elle avait affaire. Un cambrioleur à la recherche d'un portefeuille ou d'un ordinateur portable à voler, ou un intrus d'un tout autre genre. Un prédateur en quête d'une proie. Toutes ces histoires qu'elle avait entendues, de vieilles dames agressées, tabassées, laissées pour mortes sur la moquette, leurs robes de chambre souillées. Là, un autre bruit. Quelqu'un qui faisait des allers et retours dans le couloir. Quelqu'un qui cherchait quelque chose? Meyerson, songea Irène. L'homme qui avait fait pleurer Angela et qui avait ensuite prétendu n'avoir jamais mis les pieds devant chez elle. Elle n'avait pas du tout aimé le mépris dans son regard lorsqu'il avait posé les yeux sur elle. Vieille bique, avait-il dû penser. Sale fouineuse. Bon, eh bien, quitte à passer pour la curieuse de service, autant combler les attentes placées en elle, non? Dans le noir, elle tâtonna pour trouver l'interrupteur, alluma sa lampe de chevet et plissa les yeux le temps de s'accoutumer à la lumière. Après quoi, elle s'assit sur son lit et prit ses lunettes. Et évidemment, son téléphone portable n'était pas sur la table de nuit. De toute façon, elle n'arrivait jamais à mettre la main sur ce fichu appareil quand elle en avait besoin. Irène descendit l'escalier à tâtons, car elle ne voulait pas prendre le risque d'attirer l'attention en allumant la lumière. « Très malin de te déplacer dans le noir, » marmonna-t-elle. « Après t'être fait une entorse à la cheville, tu veux te fracturer la hanche, c'est ça ?» Alors qu'elle atteignait la dernière marche et vérifiait prudemment du bout du chausson qu'elle était bien au pied de l'escalier, un gros boum retentit dans la maison d'Angela comme si quelqu'un était tombé.
« Qui est là ? »
cria-t-elle aussitôt.
« Je vous entends. Je vais appeler la police. La police va arriver. »
En prononçant ces mots, elle songea qu'elle avait l'air tout aussi ridicule qu'inoffensive.
« Vous avez compris ? »
insista-t-elle. Seul le silence lui répondit. Deux inspecteurs de police, un jeune homme rasé de frais et plutôt musclé, et une femme d'une trentaine d'années à l'air fatiguée, se tenaient devant la maison d'Angela, les mains sur les hanches. « La porte est verrouillée », indiqua le policier à Irène en essayant d'actionner la poignée pour lui prouver ses dires. « La serrure ne semble pas avoir été forcée, les carreaux sont intacts. « Je ne vois aucun signe d'effraction », ajouta-t-il d'un ton presque désolé.
« Je vous assure qu'il y a quelqu'un à l'intérieur », insista Irène, blottie dans l'encadrement de sa propre porte d'entrée. « J'ai entendu des pas. »
« Et vous dites que la maison est inhabitée ? Vous êtes sûre qu'elle n'a pas été louée ?»«
Non, il y a encore des affaires de la propriétaire précédente qui n'ont pas été vidées. Si vous voulez tout savoir, un homme est venu aujourd'hui et... Et il a menti en disant qu'il n'était jamais venu ici et je...
Donc vous avez vu quelqu'un rôder autour de la propriété ?» résuma l'inspectrice.
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais une femme est morte dans cette maison. Il y a plusieurs mois, une femme est morte et vous... Enfin, pas vous, personnellement, mais la police a décrété qu'il s'agissait d'un accident. Or, je n'en suis pas convaincue, parce que maintenant c'est le fils qui est mort. Vous ne trouvez pas ça étrange ?
Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous dites qu'il y a eu deux décès suspects dans cette propriété ?
Non, non, un seul. Le fils est mort ailleurs. C'est juste que... Je ne cherche pas du tout à vous faire perdre votre temps, mais il y a quelqu'un à l'intérieur en ce moment et j'ai peur.
Je comprends, dit le policier avec un sourire. Il leva le poing et donna un coup ferme sur la porte. Ils attendirent. Il répéta l'expérience et, cette fois, une lumière s'alluma à l'intérieur. Irène eut un mouvement de recul et faillit trébucher.
« Vous voyez ?»
s'exclama-t-elle, à la fois terrifiée et triomphante. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit à la volée et Carla apparut dans l'encadrement, visiblement furieuse. Vers 3 heures du matin, quand tout fut réglé avec les policiers, après que Carla eut décliné son identité et expliqué qu'elle avait tout à fait le droit d'être là, celle-ci accepta l'invitation d'Irène à boire un thé.
« Vous ne devriez pas venir là en plein milieu de la nuit !»
commença par lui reprocher Irène. « Avec tout le respect que je vous dois, Irène, » répliqua Carla en levant légèrement le menton, « je fais ce que je veux. C'est ma maison. Enfin, ce sera bientôt ma maison. Donc s'il me prend l'envie d'y aller au milieu de la nuit, ce n'est pas vous qui allez m'en empêcher. »
« Mais... »
« Désolée si je vous ai dérangé. » poursuivit Carla d'un ton qui trahissait l'indifférence la plus totale. « Mais je dors très mal en ce moment, et donc parfois, au lieu de rester allongée à regarder le plafond, je me lève et je fais ce que j'ai à faire, que ce soit m'occuper de ma correspondance, faire le ménage ou, dans ce cas précis, passer chez ma sœur pour essayer de retrouver un objet que j'y avais égaré.
« Quel objet ?»
aboya Irène, excédée par le manque de considération de Carla à son égard.
« Quel objet pouvait bien mériter que vous veniez me déranger à 2 heures du matin ?»«
Ça ne vous regarde pas !» donna Carla. Et elle abattit sa tasse sur le comptoir de la cuisine, répandant au passage du thé sur le carrelage.
« Oh mince !»
Elle attrapa une feuille d'essuie-tout, s'agenouilla et essuya le liquide. Mais au lieu de se redresser une fois l'opération terminée, elle resta prostrée, les bras ballants, la tête appuyée contre les genoux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis désolée. » Irène posa une main sur son épaule.
« Ce n'est rien, »
dit-elle, un peu ébranlée de voir Carla se montrer soudain si vulnérable.
« Allez, relevez-vous. »
Carla s'exécuta. Elle pleurait, pas à grands sanglots, mais en silence, d'une manière digne qui lui correspondait, les larmes roulant élégamment sur ses joues pour goûter sur le col amidonné de son chemisier blanc. Elle ferma les yeux et s'essuya les joues avec la paume de sa main.
« Allons, allons !»
dit Irène d'une voix douce, comme si elle cherchait à amadouer un animal ou un enfant craintif.
« Prenez votre thé, là, voilà. »
Et elle entraîna Carla de la cuisine au salon, où elles s'assirent côte à côte sur le canapé. « Je suis venue avec des objets, aujourd'hui, » déclara Carla après quelques secondes de silence. « Enfin, hier. » Ou la dernière fois. Bref, dans un sac, j'avais des vêtements et 2 écrins à bijoux. Je suis venue avec, j'en suis sûre et certaine.
Et vous ne les retrouvez pas ?
Carla acquiesça.
Des objets de valeur ?
Pas vraiment. Je ne sais pas, en fait. Il y avait la bague de fiançailles de ma mère qui doit valoir un peu d'argent. Mais c'est surtout la médaille de Saint-Christophe. Elle appartenait à mon fils.
Oh, Carla.
Je ne peux pas la perdre. Je ne peux pas. On l'avait achetée pour son baptême. On l'avait fait graver. Elle secoua la tête et ferma les yeux pour faire tomber les larmes. Il ne l'a jamais portée, évidemment. Il était trop petit. Mais il adorait la regarder, la sortir de sa boîte. Il voulait toujours jouer avec, vous savez comment sont les enfants. Et moi, je lui répétais qu'il ne pouvait pas, que c'était trop fragile, trop précieux, et qu'il devait me la confier pour que je la mette en lieu sûr. Je lui ai promis de la garder précieusement, et c'est ce que j'ai fait, pendant tout ce temps. Et maintenant, elle tourna la tête pour ne pas qu'Irène la voie craquer.
« Je suis sincèrement désolée, » dit Irène. « Mais pourquoi avoir apporté ces objets ici? Vous comptiez vous rendre quelque part après? Vous vous êtes peut-être arrêté en chemin, dans une boutique, par exemple, où vous auriez oublié le sac ?»«
Non, non, je ne suis pas allée ailleurs. C'est juste que je voulais les avoir avec moi. Je voulais les avoir avec moi quand... »«
Quand quoi ?»
demanda Irène, sans comprendre. « J'étais désespérée, » répondit Carla. Elle releva la tête et lorsqu'Irène croisa son regard, elle comprit enfin.
« Oh, Carla !»
s'exclama-t-elle, la main sur la bouche.
« Oh non !»
Carla secoua la tête. « Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas grave. »«
Bien sûr que si, c'est grave. »
Irène posa la main sur celle de Carla.
« Votre fils et ensuite votre sœur et Daniel à quelques semaines d'intervalle, ça fait beaucoup à supporter. »
Carla sourit, retira sa main et essuya les larmes sur ses joues. « C'est vrai que le sort ne nous a pas épargnés, » reconnut-elle.
« Vous êtes en deuil, Carla. C'est normal de ne pas avoir les idées claires. Moi aussi, j'y ai pensé quand j'ai perdu mon mari. Je me suis dit, à quoi bon continuer si je suis toute seule ? C'est votre sœur qui m'a tirée de là. Elle est venue me voir tous les jours. Elle m'a porté des pâtisseries. Vous savez, celles aux amandes qu'elle aimait tant. Comment ça s'appelle déjà ? Des banquiers ? Ah non, non, des financiers. Parfois, c'était de la soupe ou du café. Elle me parlait de ce qu'elle était en train de lire pour me changer les idées. Elle m'a sauvé la vie.
Le visage de Carla sembla s'assombrir et elle détourna la tête.
Je sais que tout n'a pas toujours été rose entre vous. Mais elle vous aimait, murmura Irène. Et je me doute que vous aimiez beaucoup Daniel. C'est un garçon qui...
Carla se leva brusquement. Il est temps que vous retourniez vous coucher, dit-elle en rapportant sa tasse à la cuisine. Il est vraiment très tard.
Vous savez, pour ce que je dors d'habitude, si vous voulez rester ici vous reposer, il n'y a aucun...
Oh non, la coupa Carla, comme si l'idée de passer une minute de plus dans cette maison lui répugnait. Elle était de retour dans le salon et toute trace d'émotion avait disparu de son visage. Debout dans l'encadrement de la porte, droite comme un I, le menton légèrement relevé, elle se tourna vers son hôtesse. « Pas la peine de vous lever, Irène. Merci pour le thé. Et encore désolée pour le dérangement. Je vais rentrer chez moi. Je ne vous embêterai plus. »«
Carla, je... »
Irène s'interrompit. Elle aurait voulu lui dire quelque chose de réconfortant, mais elle ne trouvait pas ses mots. Elle se contenta donc de demander
« Ça va aller, hein ?»
L'espace de quelques instants, Carla ne sembla pas comprendre. Et puis soudain, elle rougit.
« Oh oui, oui, ne vous en faites pas pour ça, » dit-elle.
« Je ne suis même pas sûre que j'aurais pu aller au bout. Entre imaginer la chose et passer à l'acte, il y a une sacrée différence. J'avais pris la laisse du chien. »
Irène sentit un long frisson parcourir toute sa colonne vertébrale à l'idée d'un autre cadavre attendant d'être découvert dans la maison voisine.
« Pas le mien, bien sûr, » disait Carla. « Je n'ai pas de chien. » Mais mon ex-mari, oui, et je pense qu'inconsciemment, c'était pour moi un moyen de m'assurer que je n'irais pas au bout.
Elle sourit, un sourire énigmatique.
Je crois qu'au fond de moi, je savais qu'en regardant la laisse, je penserais à tout l'amour qu'il avait pour ce petit chien, à tout l'amour qu'il avait pour moi, et que ça me dissuaderait de passer à l'acte.
Elle haussa les épaules et parut se radoucir.
En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses à présent.
« Oh,
fit soudain Irène. « J'ai oublié de vous dire. Votre ex-mari, il vous cherchait. Il est venu ici et... »«
Ici ?»«
Oui, enfin, dans l'allée. Il a frappé à la porte d'Angela. Je ne l'ai pas reconnu dans un premier temps, mais ensuite je me suis rappelé que je l'avais déjà vu parler avec Angela. Alors... »«
Non, ça ne peut pas être Théo, » dit Carla en secouant la tête.
« Si, si, je vous assure. »
« Vous vous trompez, Irène. Il est impossible que mon mari soit... »«
Je l'ai vu, »
insista Irène. « Il était avec Angela dans l'allée. Angela pleurait. Je crois qu'ils se disputaient. »« Théo n'est pas venu rendre visite à ma sœur, » dit Carla en haussant le ton. Deux petites taches foncées étaient apparues sur ses joues. « Il n'aurait jamais... »«
Il avait son petit chien avec lui. Une espèce de terrier, noir et roux. »
Carla eut un mouvement de surprise. « Vous l'avez vu avec Angela ?» demanda-t-elle. Irène acquiesça. Quand ?
Je ne suis pas sûre,
avoua Irène.
Combien de fois ? Juste cette fois-là, je crois. Ils étaient dans l'allée. Angela pleurait.
C'était quand, Irène ?
Une semaine ou deux avant sa mort.
De retour dans son lit, Irène regarda la lueur grise de l'aube se faufiler entre les deux rideaux. Elle était épuisée, mais savait qu'il y avait peu de chances qu'elle parvienne à retrouver le sommeil. Elle n'avait pas menti quand elle avait dit à Carla qu'elle dormait peu. Les petites nuits étaient un effet secondaire bien connu de la vieillesse. Mais même sans cela, elle n'aurait pas pu fermer l'œil, car elle n'arrêtait pas de repenser à la façon dont le visage de Carla s'était décomposé lorsque celle-ci avait appris que Théo avait rendu visite à sa sœur.